Bonjour à tous, Audrey Lamoli du CSA 95, Centre de Services aux Associations du Val d'Oise, une association au service des associations. Sachez que le CSA 95 est là toute l'année pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser en matière de vie associative. J'en profite pour vous informer que nous organisons le dernier stage de l'année de préparation à la vie associative le 12 novembre dans nos locaux à Aubonne. N'hésitez donc pas à vous inscrire en allant sur notre site www.csa95.com. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver en cette rentrée ensoleillée sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux associations, une émission dédiée entièrement aux associations du Val d'Oise et à ceux qui les font vivre. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine l'association argenteuillaise Tsimoka qui fête cette année ses 10 ans. L'objectif de Tsimoka, c'est de faire découvrir, de valoriser, mais aussi de partager les richesses de la culture malgache. Madagascar, la grande île, l'île rouge, l'océan Indien, son poivre, sa vanille, ses lémuriens, ses orchidées noires et son arbre du voyageur, son or, son pétrole, ses saphirs, son coton. C'est la cinquième plus grande île du monde. Mais Madagascar, c'est aussi le cinquième pays le plus pauvre du monde, où 75% de sa population vit avec moins $1,90 par jour, des conditions climatiques souvent rudes, un faible ratio d'accès à l'eau potable et une instabilité politique qui participe à creuser les inégalités sociales dans le pays. Pour nous parler de cette association, j'accueille cet après-midi Hugues Rajo-Harrison, fondateur et président de Tsimoka France, ainsi que Nirissoa Raja-Obélisson, présidente de Tsimoka section Argenteuil-Beson. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Bonjour.
Au sommaire de
Bonjour
cette
Audrey.
Bonjour Hugues. Alors au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord d'en savoir un peu plus sur nos invités dans la rubrique Portrait d'engagé, puis Hugues et Nirissoa nous présenteront plus concrètement ce que propose l'association et en dernière partie d'émission, vous nous présenterez les projets à venir de Tsimoka. Alors tout d'abord, Hugues, Nirissoa, je vous propose de faire votre portrait d'engagé pour mieux faire votre connaissance. Est-ce que vous êtes d'accord ?
On y va, on essaye.
Alors peut-être avant de parler de ce que fait Tsimoka, de votre association, nous ça nous intéresse de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours avant, en dehors de Tsimoka ? Hugues ?
Oui, donc Hugues Rajo-Harrison, merci donc à IDFM de nous avoir accueillis et puis le CSA 95 qui donne la parole aux associations. Merci beaucoup aux techniciens et Audrey qui nous a contactés depuis longtemps. Ça y est, c'est possible. Donc Hugues, donc qui je suis, d'où je viens, où je vais, je sais pas où je vais, mais en tout cas je sais d'où je viens. Donc je suis malgache comme on dit. Donc je suis arrivé en France pour faire mes études supérieures. Donc j'étais étudiant, puis sur sortie d'école, je suis resté en France. Je faisais partie d'une association d'étudiants d'origine malgache. Cette association, elle était vieille, très vieille, de 1934. Donc en 2014, et donc elle avait 80 ans. Donc on a fêté ça et puis on était parmi les responsables de cette association pendant plusieurs années. J'étais parmi les responsables, notamment des relations internationales ou panafricaines plus précisément, avec les étudiants africains. Et puis...
C'était où en France que vous êtes arrivé?
Oui, c'était en France, oui.
Mais où en France, en région parisienne?
D'abord à Toulouse, en classe prépa, puis en France, à Parisien, dans la région parisienne après. Donc, depuis que je suis arrivé, mes parents aussi étaient là-dedans, des familles aussi étaient dans cette association qui nous a conseillé, m'a conseillé d'entrer dans cette association qui était presque centenaire maintenant, de 1934, qui était née. Donc, voilà, donc c'est une association qui avait des visions sur le pays, sur la possibilité, comment le pays peut avoir son indépendance, sa véritable indépendance, se libérer ou avoir un développement vraiment réel et efficace et voilà, mais pas de parole. Donc après, on a grandi, on a fait d'autres associations aussi, appelées Mutuelle de Madagascar. C'est une association qui s'occupait du rapatriement des corps une fois des fins. Parce qu'en France, dans l'Europe, il y a dans les 300 000 malgaches. Et dans la région parisienne, 30 000 à peu près. C'est pas la statistique des ministères des Intérieurs, parce que le ministère des Intérieurs, il comptabilise uniquement ceux qui ont les cartes de séjour, c'est-à-dire les étrangers, mais pas les doubles nationalités, ou les nationalités françaises qui sont nées ici, nationalités françaises. Mais d'après nos statistiques propres, on est en Europe 300 000 et dans la région parisienne, 30 000. Donc, ça a augmenté. Au début, surtout des étudiants, mais après, il y avait des travailleurs qui sont arrivés. Ou bien, ceux qui sont restés, ben, ils sont devenus travailleurs comme nous. Donc, j'étais dans le privé d'abord, formateur dans le privé. Et puis, quand j'ai eu la nationalité française, donc, j'ai intégré l'éducation nationale parce que j'aime bien enseigner. D'abord en collège, en technologie, mais en même temps, mathématiques à l'université de Cergy-Pontoise. Donc en même temps, quand l'association des étudiants, en 2009, donc on a créé la Tchimouka. Donc,
et on va en reparler justement après, de cette création.
Donc,
et alors Nirisoa, vous êtes rencontrés comment quand vous étiez étudiant?
Même avant,
alors racontez-nous.
On va rire un peu, non, c'était des très bons souvenirs. Oh, on était dans la même école à Madagascar depuis la sixième.
C'est
une longue histoire, mais on n'était pas encore ensemble, hein, on était des jeunes. Alors à partir de la seconde, n'est-ce pas, la vie change un peu. Et ça continue. Et ça continue jusqu'en France. Il était donc arrivé plus tôt que moi. Moi, j'ai suivi par la suite. J'étais arrivée par la suite, continuer aussi mes études supérieures en France. Dans une école affiliée à la Sorbonne, école de hautes études, pratique de hautes études. Et voilà, c'est comme ça qu'on a continué tous les deux dans la même association des étudiants, avec les mêmes idées, la même orientation et la même formation au point de vue idées et au point de vue organisationnel. Mais même avant de partir de Madagascar, j'étais déjà un petit peu engagée dans l'organisation. Par exemple, j'avais déjà une chorale à diriger. J'étais dans un internat où j'étais toujours chef d'équipe. Donc ça, c'est déjà une petite formation.
Déjà un peu leader et très impliqué.
Et voilà, je suis contente quand même de ce que j'avais déjà été à Madagascar et par la suite dans l'association des étudiants d'origine malgache et qui m'a formé moi aussi. Hein,
organisationnellement, oui.
Beaucoup de choses pratiques dans les idées, dans l'organisation, avant d'être dans TSIMK. J'étais aussi une des fondateurs de TSIMK. Voilà. Donc et moi, je suis déjà retraitée. Hein, et j'ai été dans l'activité de marketing direct. Parmi la société où je suis, c'était parmi le plus avancé dans ce secteur.
Et tous les deux, vous avez évoqué, donc on voit que cet engagement dans cette association étudiante vous a structuré aussi dans votre réflexion. Oui. Mais vous parlez de valeurs, d'orientation prônées par cette association. Qu'est-ce que vous défendiez finalement? Qu'est-ce qui vous importe?
Surtout parler du pays, parler du peuple malgache, parler de ses problèmes, parler de ce qui, autour de ce problème, il y a déjà l'environnement, il y a déjà la pauvreté,
il y a les richesses,
la santé, il y a l'enseignement.
Est-ce que vous pouvez l'éducation. Nous présenter un peu Madagascar, justement? Hugues, je vois Nirisoa qui montre Hugues.
Ouais. Madagascar, ben, c'est, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un des grandes îles du monde. Et sa superficie, nous, on compare toujours la France plus la Belgique plus les Pays-Bas réunis. On a 5000 kilomètres de côte, il n'y a jamais de neige, on a toutes les saisons, mais jamais de neige. Et c'est un pays, donc, il y a 18 ethnies, donc, qui existent toujours, avec ses cultures propres. Donc, donc, il y a l'histoire, on a appris dans cette association un peu plus sur l'histoire de Madagascar, quoique aussi dans le musée de quai de Branly l'année dernière, on a appris aussi autre chose, mais on a appris dans cette association l'histoire et puis dans quelle voie elle peut se développer. Ça aussi, on a appris, on a eu des idées là-dessus, entre autres et ce qui était bien aussi quand on était en France, qu'on n'a pas à Madagascar, c'est que la France, et surtout Paris, est une ville cosmopolite. Et ça nous a permis d'avoir des échanges avec tous les étudiants qui viennent du monde entier. À un moment donné, l'Indochine, au moment où il y a des problèmes de la guerre du Vietnam et tout l'Indochine, on a eu toute l'Afrique, avec tout ce que ça avait comme histoire de l'Afrique, libération de l'Afrique, Mandela, tout ça, Lumumba, tout ça, vous voyez, tout ça, c'était dans l'époque de tout ça qu'on a vécu en tant que mouvement étudiant, l'Amérique latine, pareil.
Et puis déjà, Madagascar, comme beaucoup d'îles, vous avez évoqué 18 ethnies, c'est une société, je dirais, pluriculturelle. C'est un carrefour, comme beaucoup d'îles, hein, de toute façon, mais où différents peuples se rencontrent, se côtoient.
Donc pour nous, ça nous a donné des richesses supplémentaires de venir en France. Donc, et il y avait le choix, il y a des étudiants qui sont rentrés au pays, donc, et qui ont continué leurs valeurs, leurs sentiments, leurs objectifs là-bas. Mais nous, on a choisi de rester en France, si vous voulez, parce qu'on pensait qu'on peut être intermédiaire des peuples du monde et le peuple malgache.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre association ? Est-ce que c'est ça ?
C'est ça, exactement. Parce que nous pensons que en France ou dans le monde, donc, il y a des populations qui veulent se solidariser ensemble dans le monde, et que pour Madagascar, notre but, c'est la solidarité. Mais on ne peut pas se solidariser si les gens ne connaissent pas Madagascar, s'ils ne comprennent pas Madagascar, pourquoi telle ou telle ethnie fait ceci, pourquoi telle ou telle population est ceci, à un bas niveau de vie, un développement humain, alors que le pays est riche. Donc il faut comprendre. Et après, il faut aimer. Lorsqu'on aime, voilà, on se solidarise facilement, d'où le but principal de TIMC, c'est développer la connaissance, la compréhension mutuelle, l'amitié et la solidarité. Le but, c'est la solidarité entre le peuple malgache et les autres peuples du monde, notamment français, parce qu'on est en France.
Et alors justement, que veut dire Tsimoka ? Alors excusez-moi de l'accent, parce que juste avant de l'émission, Nérissoam a fait un petit cours avec Hugues aussi, voilà, où est-ce qu'on mettait, on accentuait plus. Mais que veut dire ce nom
Tsimoka. Tsimoka veut dire bourgeon. C'est le commencement de quelque chose, c'est un bourgeon. Alors on espère que ça va grandir, cette bourgeon, pour donner une belle fleur. Mais pour le moment, c'est un bourgeon.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous. Je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir plus concrètement ce que fait Tsimoka juste après avoir écouté un titre de chanson malgache. Alors Hugues, je vous laisse peut-être présenter ce premier titre, Midira. Alors évidemment très mal dit, je vous laisse le présenter avant qu'on l'écoute.
D'accord. Midira, c'est une chanson justement qui veut dire entrée, et avec les chants et danses de toutes les régions, toutes les ethnies de Madagascar qui chantent, qui dansent, qui disent « Nous sommes tous des Malgaches, unissons-nous, hein, nous ne sommes pas divisés, unissons-nous » parce que dans le temps on dit « diviser pour régner », non. Nous, on dit, unissons-nous, trouvons les moyens de nous unir pour progresser ensemble, développer le pays et avoir notre propre libération.
Alors, on écoute tout de suite Midira sur IDFM Radio Anguin.
Midira, 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 Umani, ye panasa na umani katunginan. Bizu, bizu, bizu katizu dirasana. Aseui, kaseui andra pitasana. Midira, midira, midira ka midira na kanganaye palasa.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux associations où nous recevons cet après-midi Hugues Rajo-Harrison, fondateur et président de Tsimoka France, ainsi que Nirissoa Raja-Obélisson, présidente de Tsimoka, section Argenteuil-Beson. Alors on vient juste d'écouter un extrait de Midira. Alors Hugues, qui est l'auteur de cette chanson ?
Ouais. Donc, c'est un groupe. C'est justement, c'est le groupe de l'association des étudiants d'origine malgache, le groupe choral, un groupe choral de l'association des étudiants d'origine malgache, parmi ses objectifs depuis toujours, la promotion de la culture malgache. Donc, c'est ça que ça traduit une des chansons. On a fait des cassettes audio, des vinyles, des CD.
Elle existe toujours, cette association?
L'association existe toujours, un peu moins active dans toute la France, sauf à Toulouse, mais elle existe toujours.
Elle
s'est pas dissoute.
Rentrons dans le vif du sujet. Hugues Nirissoa, que propose votre association Tsimoka, concrètement?
Donc, Tsimoka, historiquement d'abord, elle a été créée à Argenteuil en avril 2009. Donc c'est pour ça que maintenant c'est le 10e anniversaire. Elle a été créée au début avec 4 fondateurs, juste surtout pour développer les arts culinaires, mais pas obligatoirement malgache. On avait fait du malgache, bien sûr, mais aussi des chouchis, de martiniquais et tout. Donc, c'est l'art culinaire d'une manière ensemble. Et puis, du cours de malgache. On a fait aussi des cours de malgache pour les malgaches qui sont en France et qui n'ont jamais appris le malgache. Et pour les futurs touristes qui veulent aller à Madagascar, parce que Nirissoa elle a été formée en tourisme solidaire. Donc, elle a fait des stages, des formations là-dessus. Donc, on a fait aussi des sports, des cultures. Mais, donc, c'était avec le tourisme. Mais quand on est arrivé à Madagascar, on a fait donc chercher des endroits où est-ce qu'on va amener les touristes et tout. Donc, on était amené des livres et des médicaments. Ça, c'était nos premières activités à Madagascar et avec les touristes. Mais ce n'est pas n'importe quel livre, n'est pas n'importe quel médicament, mais on avait des listes bien précises qui étaient données par les professeurs là-bas, qui n'ont pas les mêmes programmes qu'en France, et des médicaments qui ont des bien précis par les médecins là-bas, et ça, ce n'est pas n'importe quel médicament. Donc on a amené ça, mais on a vu donc un village qui s'appelle Madukeli, qui se trouve à 400 km de la capitale, et c'est là qu'on a eu les premiers contacts avec un village futur jusqu'à maintenant, en 2009, et qui nous a dit « Oui, vous voulez bien nous aider, bon, nous on ne connaît pas c'est quoi ces touristes, mais ce qui nous intéresse c'est que si vous nous amenez de l'eau potable. » Parce que les enfants, mettent 4 heures par jour pour chercher l'eau avec les femmes, les mamans et tout, donc ils ne peuvent pas aller à plein temps à l'école. Donc on a des problèmes de santé, il n'y a pas d'infirmiers, pas de médecins, on a des problèmes d'éducation, les écoles ne sont pas parfaites, mais les priorités des PROT, c'est l'eau. Et l'eau, Tsimk. Donc notre principe, c'est de répondre aux besoins. Ce n'est pas à nous de dicter, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, mais nous on répond aux aspirations et aux besoins demandés par la population. Comme c'est ça leur première demande, c'est pour ça qu'on a notre premier projet, c'était eau, hygiène, assainissement, donc acheminement d'eau potable. Mais comme nous savons que c'est possible, on a utilisé l'énergie solaire dans le village. Au début, le village, c'était 3500 habitants. Maintenant, depuis que l'eau est arrivée en 2015, donc le projet commençait à être conçu avec les villageois, avec la commune, qui est maître d'ouvrage, avec une ONG qui s'appelle Taratra, qui est composée que des malgaches, des ingénieurs hydrauliciens, des sociologues, des formateurs, que des malgaches. Donc on a conçu avec eux le projet, avec les villageois, qu'est-ce que vous voulez, où est-ce qu'on va mettre les bornes fontaines, où est-ce qu'on va mettre les lavoirs, où est-ce qu'on va mettre ceci, cela, c'est où les fontaines, les sources et tout. Donc on a conçu avec eux depuis 2012-2013, et on a fini le projet une fois que les sous sont arrivés à peu près 56 000 euros. Donc on a...
C'est ce que j'allais vous demander, combien de temps ça prend pour pouvoir aboutir donc, ce type de projet
donc, voilà, c'est-à-dire que une fois qu'on a obtenu les financements, ça a mis juste un an et demi. Mais pour concevoir, chercher les subventions, on a fait depuis 2012-2013.
Et alors ces financements, on va les chercher où?
Donc ça, c'est l'activité de TIMC. Donc on fait des fonds propres, on fait des activités de vente d'objets artisanaux, on fait des brocantes, on fait des concerts, on fait des restaurations. Donc ça, c'est des fonds propres. Et puis, on cherche des subventions. Pour ce projet-là, par exemple, on a eu la mairie d'Argenteuil qui nous a soutenus, l'agence Microprojet, AMP, et puis la région Île-de-France. Tout ça, ça nous a aidés. Donc, et puis, donc, les fonds propres des PITIM, quoi. Donc, on a eu des dons de particuliers, etc.
Donc, ce travail autour de l'accès à l'eau potable via des pompes à énergie solaire, aujourd'hui, il est terminé, fonctionnel sur ce petit village qui grandit, du coup, qui va peut-être plus rester un village, mais peut-être devenir une ville. Et est-ce que vous avez vocation à le développer dans d'autres villages ? Ou vous vous orientez vers d'autres projets de solidarité internationale ?
Donc, c'est-à-dire que nous, notre concept, nos principes, c'est que si on a un projet, quel que soit le projet, on conçoit avec les bénéficiaires, on réalise avec eux. Donc ils ont participé, que ce soit pour le collège d'après, ils ont participé en main d'œuvre, en cherchant de l'eau, en cherchant les graviers. Nous, on ne peut pas faire ça d'ici. Donc même si on a des techniciens sur place, malgaches, avec nos partenaires, eux, ils sont techniciens, ils sont, mais ils ne sont pas les ouvriers qui vont monter les parpaings ou les trucs comme ça, les briques. Et puis, le plus important, c'est qu'on les forme depuis le début, on les conscientise depuis le début, ils participent non pas main d'œuvre, mais même en numéraire. Donc, telle église, telle association de parents, telle enseignante, association de parents, les femmes du 8 mars, etc., ils se sont engagés à participer. Je donne tant de personnes par semaine, par mois, je donne tant d'euros, les opérateurs, par exemple, il y a des opérateurs dans le village, ils sont des marchands, des petits hôteliers ou autres, des gargotes, on appelle ça, et puis ils ont dit, je donne tant, parce qu'ils ont intérêt à avoir de l'eau dans le village. Donc c'est pour tout le monde l'eau.
Et qui participe aussi à la pérennité du projet.
Justement, c'est ça. Plus ils participent, plus ils conçoivent, plus ils participent à la conception, à la réalisation, plus ils mettent, ils disent, moi j'ai participé là-dedans, donc c'est à moi aussi. Non, donc, c'est la plus importante pour nous, c'est la pérennisation, mais nous, on ne va pas rester là éternellement. Donc c'est ça la pérennisation, l'autonomisation des bénéficiaires, c'est ça notre but.
Alors, à côté de l'accès à l'eau potable, vous avez évoqué le collège.
Oui, donc une fois que l'eau est arrivée, donc les enfants peuvent aller à l'école à plein temps. Donc, leur demande, dès que c'est arrivé l'eau en juin 2015, nous, on était là-bas en général tous l'été en France. En juillet, on était allés. Donc, on a dit, bon, le prochain, maintenant, c'est l'école. Ils ont des écoles primaires déjà partout, dans la circonscription. Ce n'est pas une commune, hein, c'est une subdivision de communes. Donc, dans la subdivision, on appelle ça Fouctane. Dans la subdivision, il y a cinq petits villages. Donc, nous, on a fait l'eau dans le chef-lieu de village. Du Fouctan. Donc, on a fait le collège, ils disent, donc, dans les écoles primaires qui viennent des campements, ils appellent ça, donc, ils sont candidats pour être dans le collège. Dans le village lui-même, il y avait un collège public de 300 élèves, un collège luthérien, école primaire publique de 300 élèves, école primaire luthérien de 80 élèves. Donc, et après l'eau, il y avait une école primaire catholique qui s'est créée, 50 élèves. Donc, tout ça, maintenant, sont des candidats au collège. Donc, on a construit d'abord le collège. Donc, le collège, on a cherché, donc, à partir de 2015, 2016, 2017, on a eu les subventions, fin 2017, de la mairie de Paris, de la région Île-de-France, en juin 2018. Et puis, Praozim, je ne sais pas si vous connaissez... Praozim en août 2018. On a demandé à d'autres fondations, on n'a pas eu. Donc, on a quand même démarré le projet en juillet 2018. Et puis, on a construit, on a fini le collège globalement en décembre 2018. Il y a eu des enseignants, des élèves qui ont commencé à travailler. Et cette année, 2019, comme on veut que ce soit aussi alimenté en solaire, parce que le soleil est gratuit, et la tendance internationale maintenant, même l'hydraulique, même les géothermies, maintenant, il y a trop de maintenance à faire, il n'y a que le solaire qui baisse, et moins de maintenance à faire. Donc on a choisi de faire le solaire, et voilà, c'est fait. En juillet 2019, on a célébré l'électrification solaire du collège avec quelques éléments informatiques dans le village.
Donc là, c'est la rentrée. Là. C'est
la rentrée, c'est en septembre-octobre. On a fait la fête en juillet, mais on n'a pas eu toutes les subventions aussi qui sont nécessaires à terminer les jardins potagers bio, les cantines, tout ça, on n'a pas fini, donc on arrête.
On va en reparler de ça. D'accord. Est-ce que vous parlez beaucoup de l'engagement, de l'investissement, notamment financier, des institutions publiques, notamment françaises? Est-ce que vous avez un soutien aussi des institutions malgaches?
Bien sûr. Il faut normalement pas pécuniaire, ça passe pas sur le plan pécuniaire, mais il faudrait de toutes les façons passer dans la région et même en national au ministère pour leur montrer le projet, pour avoir leur aval.
Mais pour l'instant, ils vous soutiennent pas financièrement?
Non, ils nous soutiennent peut-être sur le matériel, des bancs, des armoires,
sur l'équipement,
mais pas financièrement, et ils seront contents, et bien sûr ils étaient contents de couper le ruban pour l'eau,
et ils vous faites vos preuves et peut-être que ça va avoir un effet boule de neige.
C'est-à-dire,
ensuite
on fait comme ce qu'on peut. Parlait que ce soit durable et pérenne, il n'est pas question pour nous de faire des écoles privées. Parce que si on fait des écoles privées, il faut payer les salaires des enseignants, leur chômage éventuel ou leur retraite. C'est pas notre but. Notre but, pour que ce soit pérenne, et comme c'est à l'État qui a signé aux Nations Unies les ODD des Nations Unies, l'école pour tous, l'eau potable pour tous, l'énergie renouvelable pour tous et la santé pour tous, pour nous c'est le devoir de l'État de faire ça. Donc on exige à l'État de le faire, on le se met en contact avec eux, on est non gouvernemental, on est indépendante de toute association, organisation religieuse, syndicale et politique. Donc, c'est pour ça. Non, mais s'il faut demander à l'État les plans, les terrains domaniales, c'est parce qu'il faut faire construire sur des terrains domaniaux officiellement. Donc, on demande ça à l'État, au service des domaines et de l'État. Donc, voilà. Les maîtres d'œuvre, le maître d'ouvrage, nous sommes les porteurs de projets. On a des maîtres d'œuvre sur place, des ONG malgaches ou des sociétés malgaches, mais le maître d'ouvrage, c'est la commune, toujours.
Alors, à côté de ce que vous faites directement à Madagascar, je crois que vous faites aussi pas mal de choses en France, notamment autour de la région parisienne, Paris, Argenteuil, Beson. Nirissoa, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que fait Tsimoka aussi sur Argenteuil, Beson?
Oui, à Paris aussi. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas donc aller faire des projets à Madagascar sans faire connaître, d'abord comme Hugues avait dit, Madagascar, sans connaître qu'est-ce qu'il y a, quels sont les besoins des populations, surtout dans les campagnes. Donc, on cherche, on a promis, c'est ça le deal là, avec les villageois, nous pouvons vous aider à chercher le financement. Et voilà, donc on cherche le financement. Pour chercher le financement, il y a déjà eu quelques activités. Par exemple, à Argenteuil, on participe toujours au forum des associations. Et pendant le forum, on fait une restauration. La municipalité a choisi, parmi les restaurateurs, les associations qui font du repas, Tsimoka. Et ça, on la remercie d'ailleurs pour ça. Hein. Ça fait X années qu'on est tout le temps dans le stand.
C'est une visibilité supplémentaire un moyen de récolter des fonds supplémentaires.
Mais à part le stand, on a toujours deux stands. Stand d'activité pour faire connaître l'association et Madagascar, et stand de restauration pour faire goûter aux gens aussi les plats malgaches.
Donc, et je crois que vous faites aussi des campagnes, alors moi j'appelle ça campagne de sensibilisation, mais ça peut prendre un autre terme, au sein des établissements scolaires, pour parler justement à la fois des actions de solidarité internationale et puis de Madagascar.
Oui, on a été dans des écoles primaires à Argenteuil, à Sarcelles, Et puis, ça va se faire aussi sur Paris, hein, mais ça, c'est
pour... Alors, vous faites quoi dans ces rencontres-là? Qu'est-ce qui s'y passe?
On parle avec les élèves à partir d'un diaporama. Donc, on montre le village, comment il est, on montre les enfants, et par la suite, il y a un échange avec les élèves. Et que des questions, que de soutien parmi... On dit toujours que la solidarité peut aussi se développer à partir des enfants, pas seulement les grands. Donc, et avec ces enfants-là, ils ont décidé, par exemple, à Argenteuil, il y avait tous les centres de loisirs...
En
2017. Ont fabriqué... les poupées frimousses de l'UNICEF, mais ça c'est l'UNICEF qui a donné tous les ingrédients.
Et ils ont... UNICEF de Val d'Oise.
Oui, UNICEF de Val d'Oise.
Quoi les poupées frimousses?
C'est des poupées avec des chiffons. Des chiffons.
Donc c'est des kits qui sont fournis par l'UNICEF.
L'UNICEF, et ce sont les élèves qui le fabriquent.
Qui les habillent.
Oui, il n'y a pas que les habillent à leur manière. Oui, et dessinent. Alors, il y avait 250 poupées données par fabriquées par ces centres de loisirs. Et puis, ça c'est Argenteuil.
Et on les a acheminés à Maduquel.
Oui.
On les a distribués à Maduquel, les 250, sur les enfants de 5 à 10 ans, parce que c'était les enfants de 5 à 10 ans des centres de loisirs qui les ont donnés d'ici. Donc, on a toutes les photos de ça qu'on va montrer le 5 octobre. Donc,
pareil, ces élèves aussi des centres de loisirs ont lancé l'idée de ramasser des livres. D'où donc c'est aujourd'hui qu'on a donc déposé les livres à Roissy.
Parce que Hugues nous dit juste avant l'émission, je reviens de Roissy.
Voilà, on a dépassé deux palettes.
Il y a des ordinateurs aussi dans les palettes, mais il y a beaucoup de livres. On a déjà amené parmi les objets qui ont été récoltés par les élèves centres de loisirs en 2018. En 2019, on a récolté des kits scolaires, des crayons, des stylos, des règles, des cahiers, des compas, etc., que nous, on a pu amener par avion. Donc ça, c'est plus léger, et en plus, c'est plus facile à distribuer individuellement que les gros livres ou les dictionnaires ou autres. Donc ça, on a pu amener par avion deux fois. Donc on a distribué des ballons neufs, mais tout est neuf. Hein. Ce n'est pas de la brocante qu'ils nous ont donné. C'est tout neuf, mais on choisit. C'est-à-dire, on leur dit, on ne veut pas de manuel scolaire parce qu'on n'a pas les mêmes programmes. Hein? Mais on veut des bleds, des autographes, des dictionnaires, des romans faciles, des dessins animés qui sont faciles à lire. Ce n'est pas des compliqués, des romans de Baudelaire. Excusez-moi, c'est beau quand même, mais ce n'est pas
forcément adapté aux besoins immédiats des établissements scolaires de Madagascar.
Ils ont même fait une fête de Noël, ces élèves, pour vendre des produits qu'ils ont eux-mêmes confectionnés. Et ils ont eu des sous qu'ils ont donnés à Timk pour acheter des jouets.
Donc Timoka, c'est la solidarité internationale qui apprend cette solidarité aux enfants.
Tout à fait.
En France et Argenteuil, Sarcelles, Paris.
Paris aussi, parce qu'on faisait partie de ce que, je ne sais pas si vous devez connaître, depuis 2015, ce qu'on appelle l'Alternativa. Donc, Alternativa Paris, c'est-à-dire qu'ils proposent des alternatives aux problèmes qui se posent actuellement au climat, à l'environnement dans le monde entier. Et aujourd'hui même, c'est la journée mondiale du climat. Il y en a à Madagascar. Il y a une manifestation à Madagascar qui alerte les pouvoirs publics et tout le monde que ça nous concerne tous, ces problèmes de climat. Ça concerne Madagascar aussi. Mais en tout cas, ces jeunes-là, on a fait déjà au collège à Ris-Orangis, pareil. Et on fait tout ça aussi, et ça nous attend encore à collège à Paris.
Alors, ça veut dire qu'un centre de loisirs, une école, par exemple, d'Argenteuil, peut faire appel à vous pour imaginer comment, dans l'année, on peut travailler autour de cette question de la solidarité, et puis plus, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'aussi, toute la connaissance aussi de ce pays.
On a fait déjà aussi des stands à Saint-Leu, des fêtes de Noël à Saint-Leu. Vous savez qu'il y a des, ça existe. On a des membres français à Saint-Leu parce qu'on n'est pas que des Malgaches dans notre association. On a des, dans notre bureau une Algérienne et ça a toujours eu des membres françaises ou français à Saint-Leu, à Taverny. On participait, c'est une seule fois au moins, mais il faut le marquer quand même, parce qu'on est à Radio Enghien, donc c'est pas loin. Donc on a fait une fête de Noël là-bas déjà.
Merci Hugues, je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté un autre titre malgache. Alors Nirissoa, je vais vous laisser nous en parler un petit peu. Alors je vais le dire de manière très phonétique, Omeo Rano, et là je vous laisse me rectifier, et puis nous dire ce que ça représente pour vous avant de l'écouter.
Beaucoup de choses. Ou Meo Ram, ça veut dire donnez-nous de l'eau. Hein, de l'argent, qu'est-ce qu'on va en faire avec de l'argent? Peut-être oui, mais de l'eau, nous en avons besoin dans notre vie. Hein, on va aller chercher très loin l'eau des fois, dans les villages. Nous en avons pas. Il faut marcher X kilomètres pour
30,
en avoir.
Jusqu'à 30, 40.
Voilà. Donc, il nous faut de l'eau. Et c'est partout l'eau à Madagascar. On en a besoin. Voilà.
Alors on écoute.
C'est des chansons surtout du sud de Madagascar qui le problème de l'eau était crucial depuis bien avant 1960 et qui reste toujours. On est en 2020 et c'est toujours crucial. Donc ce problème de l'eau, ça reste. Et la chanson, c'est une chanson du sud aussi, d'Entendruy, oui, à la base. C'est parmi l'ethnie les plus connues au niveau international, au niveau chanson et même écriture. Voilà.
On écoute tout de suite Omeo Rano sur IDFM Radio Enghien. À tout de suite. Vous êtes toujours dans l'émission La Parole aux Associations avec Hugues Rajo Harrison et Nirissoa Raja Obélisson de Tsimoka. Alors Hugues, Nirissoa, en vous écoutant, on mesure l'ampleur du travail réalisé par Tsimoka et son équipe. Et votre activité est loin de ralentir car vous avez plein de casseroles sur le feu, je crois. Vous avez plein de nouveaux projets. Alors quels sont-ils?
Brièvement. On termine, le collège, il n'est pas terminé totalement. On a fait l'électrification solaire et la moitié des équipements informatiques qu'il nous faut, donc à peu près 15 ordinateurs et imprimantes laser noir et blanc. Il nous faut encore des équipements informatiques supplémentaires pour être vraiment un collège de 160 élèves. Il nous faut faire une cantine parce qu'il y a des élèves qui viennent de plusieurs endroits. Et pour alimenter cette cantine et comme à servir d'éléments d'éducation au jardin bio et permacole. Et puis faire un ensemble de formations au niveau couture, tressage, mécanique, informatique pour adultes. Et surtout aussi alphabétisation d'adultes parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes dans le village. C'est l'une des demandes de la population. Et un complexe sportif qu'on nous oblige de faire et que les gens sont contents de faire pour faire du sport pour tous, sport études et sport de masse.
Et alors pourquoi donc, on vous oblige à le faire?
Parce que c'est tout un collège, c'est l'État. L'État, et nous on est contents. S'il nous finance, il donne. Et on a discuté avec le responsable des sports-études à Tananarive, au ministère.
Ils ont la capitale de Madagascar.
La capitale de Madagascar, parce que le village est à 400 kilomètres. Donc, ils ont dit, nous, on peut vous aider. On a discuté que fait d'abord, par exemple, l'association des étudiants d'origine malgache a organisé des rencontres sportives sous l'esprit de sport pour tous, sport de masse. Ils l'ont fait en France. Et on a amené des livres là-dedans sur ça. Et on a dit, bon, on a les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Parce qu'on prépare les JO et tout. Il n'y a pas que Barré à Madagascar. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. La première fois qu'ils ont participé à la CAN jusqu'au quart de finale. Mais les Malgaches, ils sont aussi parmi les meilleurs au monde en boule. En finale du Coupe du Monde, champion du monde à un moment donné.
En boule, en pétanque.
En pétanque, oui. Et on c'est pas très connu, mais c'est la réalité. L'équipe malgache féminine de basket est déjà championne d'Afrique à un certain moment. Et puis en volley, où moi j'aime bien le volley, on était toujours finaliste, avait jamais été champion de Coupe d'Afrique, etc. Donc, un complexe sportif, donc, l'État nous oblige, donc, il va nous aider, hein, matériellement, hein, en formation, en sport-études, mais pas en sport-business, ni en sport-compétition seulement. Donc, ça, dans l'autre village maintenant, dans l'autre village à 50 km de la capitale, donc, on a amené tous les... Louvout, ça s'appelle 5 fourtans de Louvout. On a amené les kits scolaires et qu'on va envoyer les.
Donc là, il y a déjà des établissements créés.
Là, ils ont déjà des écoles primaires, ils ont déjà deux collèges dans les 5 circonscriptions. Mais ils ont besoin plus tard un lycée, on a ça dans notre programme. Lycée agricole, technologique et général. Mais ça, c'est dans 2-3 ans avec le ministère. Mais là, dans l'immédiat, on est obligé avec. Ça va arriver là-bas dans un mois, au plus tard. Donc, il faut qu'on a déjà les plans et les devis pour la bibliothèque, ludothèque, parce qu'il y a beaucoup de jeux de société, des triaminos, des dominos et tout ça, des cartes. Et puis, une salle informatique, parce qu'ils n'ont pas d'informatique, les collèges là-bas.
Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, les auditeurs là, qui nous écoutent ou les habitants de Paris, d'Argenteuil et autres, est-ce que vous leur demandez de faire des dons, je dirais, en nature aussi, pas que financiers ? Est-ce qu'on peut venir acheter... Alors, j'ai compris que c'était des jeux neufs, pas déjà utilisés. Est-ce qu'on peut venir vous déposer des choses ?
Oui, donc super. Donc, on recolte effectivement d'abord... des dons financiers, parce que c'est moins léger.
C'est plus léger.
Plus léger, je veux dire, excusez-moi, le français.
Et ça permet d'acheter du neuf.
Oui, ça permet d'acheter du neuf sur place, hein, parce qu'il y en a aussi sur place, possible. Donc, les dons, en fait, comme Timuka est agréé d'intérêt général, tous les dons, tous les adhésions, donc, d'après nos formations à OCSA 95, peuvent bénéficier de dons de réduction d'impôts. De 66% pour les particuliers et de 50% pour les impôts sur les sociétés.
60% pour les entreprises.
Donc, c'est pour ça, ça c'est très bien si c'est possible, mais comme dit Audrey, c'est possible aussi de nous donner des dons en nature, c'est-à-dire des livres, des jeux. Donc, les livres, ce n'est pas des manuels parce qu'on n'a pas les mêmes programmes de manuels, mais
des livres dictionnaires, d'histoire, des albums.
Oui, des dictionnaires, hein, français-français, ou anglais-français, ou anglais-anglais, ou chinois, peu importe. Nous, on est ouvert. On est une île, mais on est ouvert à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de Chinois maintenant à Madagascar, pourquoi pas.
Mais donc, j'insiste, il faut que ce soit neuf. On ne peut pas venir vous apporter des jeux qui ont peu et qui sont...
Non, oui, c'est mieux. En tout cas, tous les jeux qu'on nous a offerts, tous les jeux de société, c'est mieux aussi les jeux de société, sont tous neufs que donner les enfants d'Argenteuil et de Sarcelles. Donc ça, et puis voilà, au niveau des prochains projets dans l'année qui vient, on a notre site et tout, mais dans les mois prochains qui viennent, c'est ça. Et sinon, les activités prochaines, on a aussi des cours de malgache que Nii peuvent donner, les cours de chant, de danse, avec des instruments, avec des artistes professionnels et tout. Nii peut en parler plus que moi parce qu'elle fait partie de l'équipe.
Et alors, puis... racontez-nous, Nirissoa.
Pour le malgache et pour le cours de malgache.
Donc, vous donnez des cours très concrètement. Vous les donnez où, ces cours ?
À Paris.
À quelle heure ou à Paris ?
On donne dans la maison des associations du 15e arrondissement, rue de la Saïda. De Saïda, je ne me souviens plus. Et cours de malgache.
Quel jour ?
Le samedi, deux fois par mois. Et une première partie... ça va se faire comme ça, hein, c'est le programme. 14h, il y aura de la danse, du chant, des chants et instruments aussi, le vali, l'instrument et la guitare et les djembé et le maracas malgache. Donc pour les enfants et pour les grands qui veulent suivre ce parcours, connaître la musique, connaître aussi les chants, parce qu'avec les chants, on peut apprendre très vite le malgache. Une deuxième partie, à 15h, 30. À 15h30 jusqu'à 18h, c'est du malgache un peu plus poussé, pour un peu plus parler encore. Et donc pour les enfants, pour les grands, et également pour les touristes qui veulent aller à Madagascar. Et nous organisons de l'activité de tourisme avec l'éthique solidaire, c'est-à-dire
vivre. Donc c'est-à-dire que si on a envie de partir à Madagascar de manière... plus engagé et puis avoir un tourisme plus solidaire et responsable. On peut passer par Timoka.
On peut passer par Timoka. Nous en avons organisé cette année. Mais bon, on va peut-être faire connaître cette activité très vite pour que les gens puissent...
Nous, on a ce qu'on appelle un département qui s'appelle, dont Niri est la responsable, la première, tourisme...
De développement solidaire.
Tourisme de développement solidaire. Tourisme, c'est du tourisme. Développement, c'est-à-dire on les amène dans nos deux villages, ou l'un des deux villages pendant un certain moment, et ils participent au développement, au projet de développement qui se déroule dans ces deux villages. Donc jusqu'à maintenant, c'était les jeunes ou les gens qui nous demandent si on peut venir. Donc il y avait des gens de Marseille ou de Valence qui ont leur propre spécialité. Les gens de Valence, ce sont des gens qui sont des éducateurs qui savent faire le jonglage et les jeux du cirque. Ils sont venus rester 20 jours à Maduké. Ils ont appris aux enfants l'art du jonglage et du cirque qu'ils n'ont jamais su. Ils n'ont pas de télé pour voir ça quoi que ce soit. Pendant 20 jours, ils ont fait des spectacles. Et à la fin du spectacle, de leur passage, ils ont montré, ils n'ont pas appris ça aux jeunes, les jets de feu par leur bouche. Mais c'était un grand spectacle. Donc, il y a des scouts de Fontenay qu'ils ont demandé aussi à venir là-bas, avec leur technique de scout, les nœuds et tout ça. Il n'y avait pas le projet sur... Ils ont vu le projet de l'eau. Les gens de Valence, ils ont participé à la fabrication des graviers et tout de l'eau, de l'adduction d'eau. C'était le passage. Mais les scouts, il n'y avait pas le projet encore sur l'éducation. Ils ont appris aux gens au jardin bio. Et puis, à fabrication de tables et bancs,
avec la corde.
Avec les cordes, avec des nœuds. Donc, il y avait aussi d'autres, en tout cas des passages comme ça. Dans l'autre village, les étudiants de Sorbonne qui sont passés, qui ont initié l'association des femmes là-bas pour accueillir des touristes plus tard. Et ça aussi, ça fait partie d'une des possibilités parce que l'endroit était touriste. Et puis, ça, c'est le tourisme de développement, mais il y a aussi le tourisme de découverte. Parce que Madagascar est grand, il y a beaucoup de choses à voir. On ne peut pas voir ça en 3 semaines ou en 1 mois, même si on a ça uniquement pendant son séjour là-bas. Donc, on peut les amener, découvrir Madagascar, mais d'une manière responsable. On ne jette pas le plastique n'importe où et on ne jette pas les repas n'importe où. Mais on ne va pas dans les 3 ou 4 étoiles ou 5 étoiles qui existent à Madagascar, mais dans des hôtels un peu plus simples, même dans des campines, ça existe. Donc, on va voir les meilleurs endroits de Madagascar, les tsinks de Madagascar, patrimoine mondial de l'UNESCO, les baobabs, toute l'allée des baobabs. On descend en canal par pirogue ou par chaland, etc. Depuis les parcs à lémurien, comme tu disais au début, il y en a plein.
Moi, j'ai un fils, son animal préféré, c'est le lémurien. Alors,
il n'y a que
à Madagascar
c'est
qu'on peut les trouver.
C'est le minimum. Il y a une centaine de types de lémuriens. Donc, voilà.
Alors, j'imagine que c'est aussi pour ça que le 5 octobre à Argenteuil, vous comptez beaucoup sur cette journée, cette soirée, pour fêter les 10 ans de Timoka, mais aussi pour, j'imagine, fédérer toutes les sympathisantes, tous les amis ou tous les curieux autour de l'activité de Timoka. Vous allez faire ça, ça se passe où ?
Ça se passe à Argenteuil.
Oui, mais où ? Quand ? À quelle heure ?
Oui, ça se passe à Argenteuil, dans la salle Jean Villard. Il y a une petite salle, ce n'est pas la grande salle, une salle de 300 personnes. Et ça commence
à Pierre Dux.
Ça s'appelle Pierre Dux. Ça commence avec un programme avec les enfants, solidarité avec les enfants de Madagascar et de France, c'est notamment d'Argenteuil.
À 15h.
À 15h jusqu'à 17h. 15 à 17h, il y aura des jeux avec les enfants, il y aura un goûter. Si vous voulez, avec des spécialités malgaches, ils peuvent être accompagnés par des grands aussi. Bon, de 17h à 18h, il y aura une projection sur les 10 ans, sur les activités de l'association. Donc, c'est pour tout le monde, hein, les enfants et les grands. Et à 19h, il y aura donc le dîner dansant avec des plats malgaches et des artistes malgaches.
Non, le 15h à 18h, j'en doute ce que disait Nir, c'est que de 15h à 17h, les jeux, donc c'est des jeux malgaches, des jeux de stratégie malgache, équivalents aux échecs et aux dames. Donc il y a ce qu'on appelle le Fanourna, le 4, le solitaire, ce qui est un peu plus connu au monde. Donc on peut les mettre sur les bois, comme on le fait au pays, mais ils sont maintenant sur tablette ou sur ordinateur. On amène les deux possibilités. On peut jouer sur les tables, sur le bois, mais aussi sur les tablettes ou sur les ordinateurs ou même sur mon téléphone portable. Là, il y en a.
D'accord, donc c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir.
Oui, tout le monde peut venir, mais surtout les enfants qui ont déjà...
Tout le monde peut venir.
Mais on va inviter spécialement tous les enfants de...
On va montrer, on va restituer comment on a fait pour leur, ce qu'ils ont donné. Hein, les kits scolaires, on va montrer les photos là, qu'on les a envoyées bien à Roissy.
C'est une journée de valorisation aussi
fait,
de tout ce que vous avez fait.
Des valorisations. Le cours de malgache, là, qu'on disait venir tout à l'heure. Donc, on va commencer à en parler parce que on a déjà fait depuis 2009 des cours de malgache, mais pas à cette forme-là. Vous voyez, avec des chants, des danses bien structurées par des artistes professionnels qui vont nous apprendre avec des valises, d'abord apprendre, et puis après, on va commander de Madagascar, ils vont fabriquer, ils vont faire des ateliers, on a des programmes avec le Figuier Blanc, on a des programmes avec la Maison des Associations d'Argenteuil pour faire des spectacles. On vient de faire une réunion hier pour le carnaval d'Argenteuil en juin 2020, 6 juin 2020. Donc, on va avoir des stands de restauration d'activités, des pharmacopées, des objets artisanaux, mais aussi un char avec des musiciens malgaches. Enfin, c'est notre, on
c'est
va faire.
Projet.
On va, c'est un projet, mais je pense que c'est possible. Et c'est pour ça qu'on a dit, on s'engage pas à 100%, mais à 80%. Mais je pense que c'est possible.
Alors, quand est-ce que vous repartez à Madagascar là? Le prochain voyage, c'est prévu quand?
L'année prochaine.
Donc, on amène des jeunes de 16 à 26 ans. Donc, on va déposer un projet, une demande de subvention. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savent ce qu'on appelle le fonds JEP. C'est des vacances, vie, solidarité internationale jeunesse. Donc, ça permet d'amener des jeunes à Madagascar, visiter et vivre dans nos villages de projet, les deux, pendant au moins 15 jours. Donc, on peut aller jusqu'à 30 jours. Ça va être financé par le fonds JEP. Donc, presque, il y a des conditions. On va commencer à faire ça. Ça fait partie aussi des projets. Neri, comme elle est responsable du tourisme, donc elle a assisté au forum, aux journées portes ouvertes du forum, mercredi, pour essayer de voir, parce que forum fait partie des causes possibles.
Merci infiniment, Hugues Nérissoa, d'être venu nous présenter votre association Tsimoka, de nous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir cette belle île qu'est Madagascar. Alors, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment on peut vous contacter?
Non, il y a deux possibilités. Donc, il y a Paris. Donc, il y a le Tsimoka France, d'abord, de toute façon, partout. On a des implantations aussi à Madagascar. Donc, Tsimoka France, le site internet, c'est www.tsimoka, tsimoka.org. Pas .com, ni .fr, mais .org. On est une organisation. Donc, on a une page Facebook, donc Tsimoka Association, c'est public. Vous pouvez tous y aller. On a aussi un compte Twitter, @tsimoka-asso. Et le mail de l'association, c'est Tsimoka Bureau, en un seul mot, tsimokabureau@gmail.com.
J'ai été ravie de vous recevoir. Je vous souhaite à tous les deux encore beaucoup de belle énergie pour continuer à développer Tsimoka et tous ces projets aussi utiles qu'enthousiasmants. Un grand merci à Philippe pour la réalisation de cette émission. Quant
merci.
À nous, nous nous retrouvons vendredi 4 octobre, même heure. Je recevrai l'association Unicité qui nous parlera, elle aussi, de solidarité et d'engagement, mobilisant chaque année plus de 7000 jeunes en service civique dans des actions d'intérêt général. C'était Audrey Lamolie sur IDFM Radio Anguin. À bientôt.
Au revoir. Au revoir.
razones para enamorar. Esos recuerdos que no escapen con el despertar. Yo no quiero ya más palabras, suficientes me son las ganas. Mil maneras tengo guardadas para darle sabor a tu alma. Confundiéndome con los pasos, los abrazos, con el ruido ya del tiempo que dejamos. Una historia que comenzamos, no terminada. Y tú te vas pa' no volver más a mis brazos. Camino, camino, llevando conmigo recuerdos no olvido, amores vividos. Camino, camino, ¿qué importa el destino si llevo conmigo aquellos amigos? Mil momentos que va dejando el encanto de ese pasado, marcaditos dentro de un lazo, y yo sigo recordando. Enamorar esos recuerdos que no escapen con el despertar. Razones para enamorar esos recuerdos que no escapen con el despertar. Camino, camino, ¿qué importa el destino si llevo conmigo aquellos amigos? Camino, camino, llevando conmigo recuerdos no olvido, aquello vivido. Camino, camino, llevando conmigo recuerdos no olvido, amores vividos. Camino, camino.
Partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.